I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent me raconter leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Maxence Lapérouse, aussi appelé Maxence avec deux S sur YouTube ou encore Maxou Zozo. Vous verrez, c'est un garçon complexe mais vraiment au meilleur sens du terme. Maxence est YouTuber, chanteur, auteur, compositeur, interprète, performeur, autant d'étiquettes qu'il résume à un mot qu'on n'utilise plus assez, troubadour. Ensemble, on parle de comment il a réussi à se faire connaître depuis son sud natal, Maxence et Nîmois, comment il s'est auto-sabordé lors de ses auditions de la Nouvelle Star, comment il s'est fait découvrir grâce à sa fameuse chanson de la démonétisation pour fustiger YouTube qui commençait à censurer à l'époque les mots vulgaires. Une chanson extrêmement sensuelle, blindée de vulgarité, qui démarre par ces mots, je le cite.
Nique ta mère, fils de pute.
On raconte aussi pourquoi et comment il a inventé cet alter ego Maxou Zozo et comment il en est venu à sortir cette EP qui annonce un album et une tournée aujourd'hui partout en France. Allez, je prends assez peu de risques sur le fait que vous devriez tomber en amour avec la personnalité de Maxence. Si vous découvrez ce podcast, merci de vous y abonner sur votre app de podcast préférée, mais vous pouvez aussi écouter Histoire de succès sur Spotify, sur Deezer et sur YouTube. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance pour votre écoute et rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode, puisque vous pourrez me retrouver dans vos écouteurs tous les jeudis matins. Mais avant ça, je vous laisse en compagnie de Maxence.
Ça va Maxence? Très bien. Tu veux qu'on fasse une interview ASMR?
Ouais, mais moi j'ai pas de casque sur les oreilles. Donc...
Tu veux un casque?
Je risque de moins entendre que toi.
Donc, ça va ravir les gens. Ça risque d'être un peu long.
Oui.
Ok.
On est avec Maxence. Salut Maxence.
Bonjour Fabrice.
Ça va?
Oui, très bien et toi?
Ça va très bien. Maxence, on se retrouve avec grand plaisir parce que ça fait longtemps qu'on cherche à t'avoir sur Mademoiselle et c'est plutôt cool que tu sois là.
Bah, merci carrément, beaucoup. Carrément, bah de rien.
C'est trop bien. Tu sors ton premier EP, enfin en tout cas ton premier EP en physique, c'est ça?
Ouais,
si je me trompe
ça.
Pas.
En fait, c'est une sorte de réédition. Je l'ai déjà sorti en streaming en juillet et là, il y a une réédition qui sort en physique avec des nouveaux morceaux.
Trop bien. Voilà. Et c'est un long EP, hein, parce que c'est un EP qui
oui,
fait 11
titres. C'est un
album, quoi.
C'est un gros EP, ouais.
Pourquoi vous avez appelé ça EP, d'ailleurs?
Parce que c'est... Pour le coup, c'est pas un album. Je pense qu'un album, c'est vraiment un truc où tu prends plus de temps et tu te concentres plus. Et... Moi, j'aime bien dire qu'un EP, c'est comme une carte de visite, en fait.
Okay.
Et vu que c'est un peu ma première création, ma première association de création, j'aime bien le terme EP pour dire, voilà, je fais ça et... Et si ça vous plaît, on se retrouvera pour l'album, quoi.
Ok, donc ouais. C'est-à-dire que tu vas ton futur album, tu vas reprendre des titres dedans
non,
ou tu
non,
vas
non,
reprendre
du tout,
tout à zéro
mais c'est, okay. C'est une histoire de dire, voilà mon univers.
Ok.
Ah ben, l'album, ce sera un peu ça, mais aussi autre chose. Voilà.
D'accord. Bon, Maxence, t'es né en 95, c'est ça?
Exact, ouais. Bravo.
J'ai taffé.
Ouais.
Non, mais attends. Non, mais t'es jeune, t'as 24 ans. Oui, c'est ça pour dire que t'as 24 ans. Ouais. T'as démarré YouTube, je pense, il y a 6 ans, c'est ça? T'as démarré, t'avais 17, 18 ans?
Concrètement, ouais, ma chaîne YouTube est vieille. Après, j'ai jamais. Enfin, un peu plus ces derniers temps, ces dernières années, mais je faisais pas des choses de manière hyper récurrente, quoi. C'était plus histoire d'avoir une chaîne YouTube et d'avoir un endroit où mettre mes conneries, mais c'était moins pour l'activité de YouTuber. C'était plus pour. Juste pour avoir un site ou mettre des vidéos, quoi.
Ok, et ouais, tu ouais. Te définirais comment, en fait, si... Parce que tu sais, les gens, ils aiment bien te mettre dans
c'est
des
vrai,
cases.
C'est
compliqué à foutre dans
moi,
une
j'aime
case,
bien. Alors moi, justement, j'ai trouvé un subterfuge qui est que je m'appelle un troubadour. C'est troubadour moderne, c'est-à-dire que je divertis. Voilà,
j'adore,
je suis un divertisseur.
J'adore ce mot troubadour. Je trouve qu'on devrait l'utiliser plus, parce
mais
que justement...
Ouais. Ouais, ouais.
Aujourd'hui, tu peux tout faire avec les médias numériques et tu peux.
Bah, clairement, c'est ça. On a une ère où que ce soit dans la manière de produire ou de consommer, on s'habitue à tout faire en fait, à être multicasquette et à la fois, je pense que les gens aiment faire ça, aiment varier leurs activités et les gens aiment aussi consommer ça. Ils aiment suivre quelqu'un dans plein d'aventures et dans plein d'activités. Donc au final, bah, je pense que je suis né à la bonne époque.
Est-ce qu'on peut reparler de à quoi ressemblait Maxence quand il avait 7-8 ans?
Ouf, on peut si tu veux. Physiquement ou...
Bon, à tout, comme tu veux en fait. À quoi tu ressemblais?
Très potelé. Non, bah, tu veux que je parle, je pense que je vais plus facilement parler scolairement. Je pense que c'est vraiment ce qui me vient en premier. Attends, donc j'ai essayé de situer 7-8 ans, j'étais en quelle classe?
Bon, en primaire, quoi.
J'étais en CE2. CE2, CM1, ouais, il me semble. Alors, j'étais un peu le clown. j'aime pas les gens qui disent ah, oh, je suis le clown. Chez mes potes, je suis le vrai clown. Non, disons que ouais, j'étais quand même très sérieux scolairement. J'étais vraiment très sérieux, j'ai toujours été un peu le bon élève qui aime pas trop quand les gens font du bruit en classe ou lancent des bouts de gomme ou tout ça. J'étais vraiment très sérieux, mais ça m'empêchait pas de faire mes conneries avec mes potes en fait. J'ai toujours été le bon pote dans. Enfin, j'essayais vraiment d'être le mec le plus cool avec tout le monde, que ce soit avec la maîtresse et avec mes potes quoi.
Et donc, est-ce que t'étais ce genre d'élève qui était suffisamment brillant pour que les profs puissent pas venir leur mettre des balayettes quand ils foutent un peu le bordel, c'est ça?
Je crois que j'étais un peu ça. Et dès qu'ils avaient un peu le dos tourné, je faisais des conneries. Mais pour autant, j'aimais pas quand ça devenait irrespectueux envers ceux qui avaient envie d'étudier ou ouais, voilà. J'aimais pas qu'on embête les autres. Enfin, voilà.
Ils font quoi tes parents comme métier?
Ma mère est infirmière.
D'accord.
Elle va chez les gens, elle les soigne. Et mon père est informaticien dans un hôpital.
D'accord. Donc ouais, rien à voir avec l'aspect
artistique. Non.
Enfin, assez rapidement, tu.
C'est un art en.
Ah oui.
Voilà.
J'entends. Le code voilà, des 0 et des 1.
C'est... Soigner des gens, c'est un art.
Soigner des gens, c'est encore. Oui, heureusement qu'ils sont là. Donc oui, a priori, aucun.
Non. Je pense que ça s'est plus exprimé. Bah naturellement, enfin, je vais dire un truc qui est une banalité, mais
arrête de tirer sur les trucs que tu dis quoi, tu vois.
Je pense que enfant et même jusqu'à maintenant, et je pense que chacun j'ai eu et tout le monde a un certain seuil de problème de confiance en soi. Et je pense que ça s'est naturellement manifesté chez moi cette envie-là de pouvoir m'exprimer. D'une quelconque manière pour vaincre cette timidité et au final cet aspect assez introverti qui fait partie de moi en fait, parce que malgré les apparences, quand j'étais petit, c'était pas forcément hyper facile de m'ouvrir aux autres et juste de côtoyer des gens. J'étais vachement renfermé dans ma bulle et au final, au fur et à mesure des années, j'ai appris à faire confiance aux gens et à m'ouvrir. Et je pense que naturellement, je pense que les activités artistiques sont venues assez facilement quoi. Je me souviens de moi petit dans la cour de l'école qui disait qui un jour avait fait un petit spectacle. Enfin, je racontais juste des blagues à mes amis. Et je me disais waouh, cette sensation elle est géniale de pouvoir créer des choses, imaginer des choses et faire rire des gens. Je trouvais ça trop fort. Et je me disais bah en fait je crois que j'ai envie de faire ça de ma vie quoi.
Quand t'étais en primaire donc.
Ouais. J'ai vraiment ce souvenir là. Je revisualise la cour, je revisualise l'arbre et je crois que c'est une des premières fois où je me suis dit tiens j'aime beaucoup ce métier, cet aspect de la vie qui est possible de transmettre des émotions aux gens et je trouvais ça vraiment chouette.
Ouais. Ok, c'est fort d'avoir réussi à avoir cette sensation là et en fait assez rapidement tu t'es dit que ça pouvait être un métier pour toi, c'est ça? T'as fait du théâtre je sais pas, tu vois.
Ouais, j'en ai fait au lycée, il y avait une option artistique qui était théâtre, j'ai passé un bac avec cette option là, mais après qu'est-ce qui est du souvenir et qu'est-ce qui est du ressenti? Moi, j'ai le ressenti. Je me souviens que j'avais connaissance, par exemple, de ce qu'était un humoriste à cette époque-là, quand j'étais tout petit, à l'époque de ce fameux souvenir. Et je me disais.
C'était qui à l'époque?
De quand j'étais petit?
Ouais, t'es.
Ah ouais, moi, j'étais fan d'Eric et Ramzy. J'étais fan. Je regardais avec mon frère, on regardait
le spectacle
au Palais des Glaces.
Palais des Glaces,
je le regardais en boucle.
Monsieur
Crémaillel, Dutiel. Je le regardais en boucle. Enfin, bref.
Ça m'étonne tellement pas.
Alors, moi, j'étais fan.
C'est moi un sandwich. Mais
je suis encore très fan de ce que fait Eric Judor, et même Ramzy, Badia. Mais j'ai le souvenir, je me disais, ah tiens, j'aimerais beaucoup être humoriste. J'avais ce terme-là, humoriste. Mais en fait, je pense qu'au final, c'était plus juste que j'aimais faire rire les gens.
Troubadour.
Et transmettre... Ouais, voilà, ce côté troubadour. Et je pense que je l'ai eu très jeune. Et il s'est plus déclaré, comme je disais tout à l'heure, par nécessité que par... C'était de l'envie, hein, évidemment, mais c'était aussi beaucoup de nécessité. J'avais l'impression d'avoir besoin d'enfiler cette espèce de masque qui, au final, n'en est pas un, parce que tu aimes quand même faire rire les gens, mais t'as pas forcément envie de te montrer tel que tu es et de montrer une facette de toi que les gens ont envie d'aimer et d'adorer. Et t'as besoin de ça, en fait. Et donc, ça s'est un peu fait par nécessité. Et je pense que maintenant, j'en ai moins fait de nécessité et c'est plus un plaisir, ouais.
Est-ce que t'as souvenir d'un déclic, d'une situation dans laquelle tu t'es retrouvé où tu t'es dit oh, « En fait, c'est cool, je peux faire ça. Et il faut que je fasse ça parce qu'en fait, c'est ça que je veux faire. »
Ben, j'ai pas le souvenir précis d'un moment, mais ça s'est réellement... ça c'est, enfin, disons que ça
je te vois les yeux perdus, ouais, t'es en train de diguer dans tes souvenirs.
Parce que non, mais ça s'est réellement manifesté les premières fois que j'étais sur scène, que j'ai pris un micro et que j'ai chanté face à des gens. J'ai ressenti un tel truc en moi. Je me suis dit, mais enfin, c'est ça le bonheur, quoi. C'est trop bien. Et j'aime bien dire cette banalité qui est la scène, c'est une drogue. La musique, c'est une drogue. Et c'est la vérité, en fait. Quand je suis sur scène et quand j'ai expérimenté ça la première fois, je me suis vraiment dit, ok, ça procure vraiment des trucs en moi qui sont assez intenses. Cette espèce de dopamine, j'en sais, hein, je m'y connais pas en chimie, mais...
Oui, mais c'est ça.
Et, hein. Non, je pense que, ouais, quand tu parles de déclic, c'est vraiment les moments où j'ai fait, ok, je vais tout faire pour essayer de faire ça toute ma vie et je le ferai le plus possible. Et si j'y arrive pas, tant pis, hein, mais...
Donc t'as monté un groupe avec,
ouais, exact,
avec tes potes au lycée.
Ouais, qui s'appelait Fish à l'époque. Et on faisait à la base plutôt du métal, en fait. On faisait ce qu'on écoutait. Moi, j'ai toujours été en décalage. J'écoutais des trucs qui dataient de l'année où j'étais né. Plutôt axé métal, j'étais fan de néo-métal. Tout ce qui est Deftones, Linkin Park, Korn, tous ces groupes-là. Et à la base, on était pas mal dans les reproductions. On produisait ça parce qu'on était tous fans de ça. Et au final, on a quand même essayé de s'ouvrir un peu plus à des trucs qu'on commençait à écouter, on a essayé de se moderniser un peu et on avait tendance à dire que là, au moment où on s'arrêtait, on faisait du pop metal, du coup, parce qu'on essayait de rendre le metal un peu plus populaire, parce que c'était pas le cas, et on avait envie de donner envie aux gens d'écouter ça et de le rendre plus écoutable, en fait, disons. et du coup, ça a duré, ouais, quelques années, ça a duré 3 ans, c'était à la fin du lycée et on faisait des scènes de manière locale, on faisait des scènes, ouais, dans le Gard. Et voilà, ça a commencé comme ça.
Et en parallèle de ça, tu te lances quand même sur YouTube ?
Ouais, en parallèle de ça, bah ouais, enfin, lancer, c'est un bien grand mot, comme je disais tout à l'heure.
T'as mis du temps avant de commencer à vraiment décoller ?
Ouais, concrètement, ouais, bien sûr. Mm. Mais c'est comme je le dis toujours, je suis un YouTuber, parce que concrètement, c'est les faits. Mm. Mais ça n'a jamais été pour moi une vocation de me dire, tiens, je vais faire des vidéos, je vais être suivi pour ça.
C'est oui, comme... on sent que t'es pas rentré dans,
ouais,
la logique.
En fait, c'était comme aller taper dans une balle. Moi, ce qui m'amusait, c'était de faire des conneries. Et du coup, c'était de faire des vidéos. Et il fallait que je les poste quelque part. Bah, je les ai postées sur YouTube. Tiens, ça fait marrer les gens. Ah, tiens, ça me donne une autre idée. Je vais la faire. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'ai jamais été hyper ponctuel, hyper régulier. Enfin, justement, que j'ai jamais été hyper régulier. Bref, je perds mes mots.
Je l'ai. J'avais compris.
mais donc, ouais, bah, c'était en parallèle de tout ce que je faisais. J'ai fait des vidéos, quoi, ouais. À côté de ça, bah, c'était la même période, oui, où je suis allé à la fac. Non, quoi, que j'y suis resté 2 mois. Non, qu'est-ce que je faisais à cette époque-là? Ah, on avait commencé à monter une petite boîte de prod avec mon pote youtubeur qui est Sofiane.
Oui.
Et on avait commencé à monter une petite boîte de prod sur Nîmes, qui au final n'aura pas forcément porté ses fruits, mais qui m'a quand même amené à venir fréquenter des gens sur Paris et à venir fréquenter la ville. Et c'est un peu de là que tout est parti, d'ailleurs.
Parce que c'est... Alors, je te demanderai après...
Oui, voilà, j'ai évoqué plein de trucs.
Non, mais en fait, je te demande... On reparlera après de... Comment tu fais pour passer de Nîmes à Paris? Parce
d'accord.
Pour moi, c'est un vrai truc qui est compliqué à faire.
Concrètement, ouais.
On en reparlera juste après, si tu veux. Mais comment ça devient l'idée de massacrer des chansons?
Ah, ça.
Parce que c'est ta première vidéo, c'est ça, non? C'est SOS d'un terrain en détresse, c'est ça?
Voici le SOS d'un terrain en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau.
Alors, exact.
Qui en plus, c'est très loin de ton univers.
Alors, j'en ai jamais parlé de ça publiquement, mais c'est marrant. Alors en fait, cette vidéo, l'origine vient du fait qu'en fait, j'ai participé à une émission qui s'appelle Nouvelle Star. En 2013 ou 2014. Oui, ça, tu n'étais pas au courant.
Okay.
Peu de gens le savent. Tu peux retrouver quelques photos. Il n'y a plus la vidéo, elle doit être dans un disque dur. Bref. Et en fait, j'ai participé à ce truc. C'était un âge où j'avais 18 ans et j'avais envie de... Pareil, dans cette fameuse quête de se prouver des choses, de prouver des choses aux gens. J'ai eu envie, je me suis dit, tiens, j'étais fan de cette émission quand j'étais petit. Tente le coup, tu vois au casting, tu verras bien. Au final, bon, il s'avère que je suis allé jusqu'à l'étape qui s'appelle les trios. Tu sais, on est trois sur scène, on était 30. Et d'ailleurs, si les gens retrouvent la vidéo, justement, on verra. Je me suis amusé en fait à massacrer la chanson à ce moment-là. Okay. Parce que... En fait, je suis parti en total freestyle et.
Mais t'y allais quand même dans un but.
À la base, oui.
Pour jouer le jeu, quoi.
Ouais, je suis allé jouer le jeu et au final, je me rendais compte que ça me plaisait pas trop. L'aspect un peu télé, un peu formaté. Je me disais, ouais, non, qu'est-ce que je fais là en fait? Et au final, je me suis dit, vas-y, profite.
Tu l'as décidé sur le moment.
Ouais, bah en fait, j'ai fait une chanson et c'est marrant, sur les dernières notes, je pars en Maria Carré. Et c'est marrant et je me suis dit, et à la fin, je me souviens. Il y avait les gens qui étaient sur place, la prod, les journalistes qui disaient « Bon alors, pas trop déçu ?» Et on était là avec un pote qui s'appelle Julien Granel qui au final fait les premières parties avec moi. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés, c'est ça qui est incroyable. Et on était avec lui et on disait « Bah non, en soi tout va bien. » Il disait « Vous êtes sûr ?»« Bah oui, tout va bien, en soi. » Nous, on a kiffé, on cherchait pas plus. Enfin, et voilà, c'était marrant. Et en fait... Je m'emporte encore un, hein, mais je...
Non, vas-y, raconte.
Il y avait un groupe Facebook de tous les candidats quand on était la dernière centaine. Et en fait, chacun montrait un peu ce qu'il faisait. Et moi, je me suis dit, bah tiens, je vais m'amuser à les troller. Je vais m'amuser à leur faire croire que je chante comme ça. Et donc, en fait, j'ai fait cette vidéo-là en paraissant vraiment très sérieux dans ma démarche, parce que c'est vrai que dans la vidéo, j'ai l'air sérieux et j'ai l'air de chanter avec tout mon cœur.
Puis le montage est magnifique.
Ouais, voilà. Et donc, j'ai posté ça et j'attendais les réactions, je trépignais et au final, je sais même plus s'il y a eu des réactions, justement, parce que je pense que les gens étaient peut-être gênés. Et justement, ils ont dû se demander, mais est-ce qu'il chante sérieusement ou est-ce qu'il fait exprès? Et du coup, à la base, la volonté, ce pourquoi j'ai fait cette vidéo-là, qui est au final, oui, la première de ma chaîne, c'était pour faire croire à des gens que d'un concours de chant, que je chantais comme ça. Voilà.
Et ça t'a suivi très longtemps, parce que je pense que encore aujourd'hui tu dois avoir des commentaires de gens qui comprennent pas. Alors peut-être maintenant tu commences à être connu, mais en fait j'ai la sensation qu'il y a plein de... dans tes commentaires, c'est souvent
bien sûr.
Les gens qui comprennent pas que
et des gens me connaissent pour ça et, voilà. Et j'en suis très content, parce que c'est même avant de faire cette vidéo, c'est un truc que je m'amusais à faire au quotidien, de mal chanter. je me suis entraîné à mal chanter.
Parce que tu chantes bien, en vrai. C'est ça le truc.
C'est gentil, mais...
Non, mais c'est vrai que t'as...
Mais c'est vrai que j'ai des amis chanteurs qui me disent, mais c'est fou, tu arrives vraiment à viser les mauvaises notes parfaites.
Exactement.
C'est pas évident. Je dis, ah, peut-être, bon.
Mais ça
après,
sent.
C'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, de m'amuser à hurler des chansons.
C'est très dur de mal faire. De bien mal faire. Tu vois ce que je veux dire?
Peut-être.
Je pense.
Peut-être. Et non, disons que c'est un truc même que je m'amuse à faire encore au quotidien. Et ça m'étonnerait pas qu'un jour on revoie ça sur ma chaîne YouTube. Hein. Mais oui, il y a des gens qui me connaissent via ça et qui peut-être sont étonnés. Mais justement, moi, c'était un peu une crainte que j'avais et un truc que j'avais constaté, c'est que à mes premiers concerts, j'avais peur que les gens viennent en croyant venir voir ça. Un spectacle un peu absurde d'un mec qui chante mal. Et, ouais. Et même des gens, même. Sont venus, ils m'ont dit à la fin du concert, honnêtement, on savait pas à quoi s'attendre, parce que concrètement, c'était une époque où j'avais même pas de sortie de morceaux, tu vois, mes morceaux actuels. Et au final, les gens étaient quand même agréablement surpris et étaient contents. Mais ouais, je comprends qu'il y ait des gens qui soient un peu confus et qui comprennent pas trop tout ça, ouais, je comprends.
Pour moi, la vraie explosion de ton buzz, ça a été de ton passage à Incroyable Talent.
C'est vrai, ça en fait.
Ou je me trompe, non? Ou alors c'est
je sais pas,
c'est une
dépend.
Période.
En fait, il y a eu deux choses.
Ouais.
Il y a eu deux choses. Il y a eu à une époque, j'ai fait une chanson qui s'appelle La chanson la démonétisation. Ouais. T'as tellement parlé de ça.
Bien sûr.
Et non, concrètement, c'est là où vraiment les choses ont commencé, okay. Où je me suis dit waouh, je maîtrise plus trop là ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a eu un espèce de buzz à cette époque-là. J'ai fait moi ma chanson de manière un peu anecdotique, quoi, anodine. J'avais vu les actualités sur YouTube. C'était à l'époque où ça commençait à être vraiment un peu plus réglementaire, tout ce qui concerne la monétisation de YouTube.
En gros, YouTube a décidé à un moment donné de durcir le truc.
Voilà, durcir, c'est normal. Apparemment, il y avait il y avait des vidéos de propagande de Daesh ou je ne sais pas quoi, des vidéos antisémites qui se retrouvaient avec des pubs de Coca juste avant, tu vois. Et les marques ont commencé à faire oula, c'est un peu bizarre. Bah écoutez, on va retirer en fait, on va virer notre collaboration avec vous YouTube, et du coup YouTube a fait ok, bon, on va quand même faire attention. Et le problème qu'il y a eu entre guillemets, c'est que les gens ont cru du coup que ça allait vraiment durcir au point d'interdire la grossièreté dans les vidéos, etc.
Bah aux US, ils bipent les fuck, par exemple, tu vois.
Oui, par exemple, tu vois, et c'est vrai qu'au final, même à l'heure actuelle, si t'es un peu grossier dans tes vidéos, tu peux te faire monétiser. Mais moi je voulais du coup un peu ouais, plaisanter sur cette actualité. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant, en fait. C'est une idée qui me trottait dans la tête. Je voulais faire une chanson où je déverse le plus de haine possible avec le plus de mots méchants, le plus de mots terribles, mais de manière la plus douce possible. Et c'est vrai que je voyais un peu ça bah, comme un concept artistique, en fait, de dire les pires cruautés, mais de manière la plus suave possible.
Mais la chanson, elle est trop belle.
Ouais, voilà,
vraiment,
c'est ça.
Une super mélodie et tu t'as
et pourtant,
un flow génial.
Je dis dedans mais des atrocités qui sont.
T'as pris tous les gros mots, tu
c'est
les
ça,
as mis dessus.
Des trucs horribles.
Voilà.
Mais évidemment, je ne vise dedans. C'est juste des mots par-ci par-là. Je visais personne, évidemment. C'est plus le concept artistique qui est juste de dire voilà des mots horribles sur un truc hyper suave. Et c'est vrai que cette vidéo a énormément tourné. Ça m'a un peu dépassé. Les premiers jours, c'était, je me disais, oh tiens, quand même beaucoup de vues. Moi, je m'attendais, honnêtement, je disais, allez, avec ça, je vais faire 20 000 vues, tu vois. J'étais, waouh, je me disais, je vais être refait, ça va être génial. J'avais même pas acheté la prod, j'avais téléchargé le MP3, hein, pauvre gars. Enfin, le pauvre, quoi. Au final, je crois qu'il a mal pris, mais bon, bref. Désolé. Et c'est vrai que, passé quelques jours, je voyais ma tête partout sur Facebook, je scrollais, je voyais ma tête sur toutes les pages, je voyais dans tout mon feed. J'actualisais parce qu'à l'époque, c'était beaucoup Facebook. J'actualisais ma page, mes notifications, mais toutes les secondes, j'en avais 5. Enfin, c'était abusé. Je commençais à voir des gens devant les lycées qui écoutaient ma chanson. Et je passais à côté, je me cachais un peu. Enfin, c'était super bizarre. Et on commençait à me reconnaître dans la rue. Donc, ouais, c'est vraiment là où tout a un peu commencé, je veux dire, médiatiquement et publiquement. Et moi, bah, j'ai voulu continuer sur cette lancée-là. J'avais eu l'idée pareil d'une autre chanson, mais je l'ai faite dans la foulée, je l'ai sortie, et ça a pas mal marché. Au final, c'est une chanson qui s'appelait la Quéquette à Jacques Chirac.
Chirac, bien sûr.
Je voulais juste retracer, parce que je suis quelqu'un d'assez nostalgique et j'aime bien me rappeler les souvenirs, je voulais juste me rappeler des expressions que j'employais quand j'étais petit, qu'on avait tous dans la cour, qu'on disait un peu bêtement, naïvement, qu'on entendait. Et pareil, bah, j'en ai fait une chanson. Au final, je crois qu'elle a 2 ou 3 millions de vues, pareil. Donc. Ouais, je me disais, waouh, il se passe vraiment un truc là. C'est vraiment bizarre du jour au lendemain d'être sollicité, notamment par Poulpe. On avait commencé notre collaboration comme ça. Et j'étais venu chanter une chanson sur le plateau des Recettes Pompettes. Enfin, je me disais, waouh, c'est bizarre. Je commence avec une chanson qui dit « Nique ta mère, fils de pute ». Voilà. Je cite l'œuvre. Et ça m'ouvre et ça m'offre des opportunités qui sont assez, assez grosses. Et je me disais, waouh, c'est incroyable. Et je pense que si un jour je devais faire un recul sur ma vie, je me souhaite que ça continue bien pour moi, mais si un jour je me fais un recul, je me dis waouh, ce succès il est quand même basé là-dessus, quoi, sur ces, sur ces deux expressions grossières, ouais. Nique ta mère, fils de pute, quoi.
Mais en fait, je trouve que c'est hyper malin de ta part parce que tu fais ça, on sent bien que c'est pas calculé, tu vois,
ah
parce
non,
que sinon ça n'aurait jamais marché.
C'est
de
ça
toute
que je
façon.
Dis aux gens, c'est que les gens des fois me disent, mais du coup, ouais, t'as calculé tout, t'as commencé avec ça sur YouTube pour ensuite pouvoir faire tes chansons. Non,
parce
en vrai.
Que déjà, ça faisait 3 piges que tu faisais des vidéos,
ouais,
et
voilà,
faisais pas beaucoup de vues, quoi, tu vois.
Non, mais c'est clair, et que j'ai vraiment toujours tout fait au feeling, et juste parce que l'idée me vient et l'envie me vient au moment. Évidemment, plus t'as des gens qui te suivent, plus tu te poses un peu de questions, mais. J'essaie quand même de les chasser au maximum et j'adore prendre cet exemple-là. Je dis souvent que si un jour, par exemple, je me passionne de peinture, bah, attendez-moi à avoir des créations. Sauf si c'est nul, hein, sauf si vraiment. Parce que là, honnêtement, j'ai pas le niveau, mais attendez-vous à avoir des peintures de Ciné Maxence, quoi. Enfin, voilà, c'est. Je fais les choses au moment et j'ai toujours fait ça et j'ai envie de toujours faire ça, en fait.
C'est marrant parce que dans ta chaîne, il y a quelques semaines auparavant, tu vas au Video City avec Seb Lafrique.
Ouais, exact.
Et en fait, t'es dans le. Ouais, c'est ça.
Ouais.
Donc c'est quoi c'est
c'était avant, c'était même plusieurs mois, voire un an avant.
Un an avant, c'est
avant
ça.
Avant cette vidéo-là.
Et en fait, t'es dans son crew, quoi.
Ouais,
et,
ouais.
Et personne t'a. C'est trop marrant parce que tu
oui,
fais
personne
justement.
Personne me connaît.
Attendez,
ouais,
bougez pas.
Ouais, ouais, je joue le gars qui.
Je suis le gars connu.
Qui cherche les projecteurs, ouais, c'est marrant. Ouais, clairement. C'est marrant de se dire ça.
C'est
ouais.
Très drôle parce que un an après c'est toi qu'on.
Ouais, carrément.
Bah, parce que Seb se fait interpeller par les meufs.
Ouais, carrément.
Ça y est, je pense que
je l'ai expérimenté.
C'est ça que tu vis.
La fois suivante, et c'est vrai que c'était différent. Ouais, carrément.
Bon, c'est carrément. Très marrant.
Oui, c'est marrant. Et.
T'as fait une deuxième d'ailleurs sur la démonétisation 2. Et j'ai vu que des gens.
J'en ai fait une 2.
J'ai vu que des gens te réclamaient une 3.
Ouais.
La deuxième qui démarre par Fromage de Kiki.
Fromage de Kiki, exactement. Là, sur celle-là, je voulais à nouveau être violent dans les propos, parce que c'est le but de cette euro-là. Hein. Évidemment, je rappelle à nouveau, si les gens sont choqués, je suis désolé, ça ne vise personne, évidemment, si je vise des mots collés les uns après les autres. Mais je voulais être violent, mais je voulais être aussi un peu marrant. Et c'est pour ça que j'ai employé aussi des expressions un peu enfantines. Et je voulais aller dans les insultes un peu plus enfant, justement, pour aussi montrer que c'est vraiment du quatrième degré. Et voilà quoi.
Et ouais, tu disais dans ta dernière vidéo, en fait, c'est fini maintenant. C'est bon, c'était une blague, il faut arrêter.
Exact, c'est vrai que des gens attendent la 3. Et moi, je me rends compte que quand même, ça a fait son temps. Et que maintenant, justement, j'ai dit les pires choses. Et que maintenant, je suis vraiment dans une volonté où j'ai envie de dire les plus belles choses. Non, mais c'est vrai.
C'est beau.
C'est vrai. J'ai envie de crier l'amour et le respect. Et je me rends compte même en fait, je suis vraiment, même au quotidien, pas quelqu'un du tout de vulgaire. Je suis le premier à attraper mes potes quand j'entends un connard ou un putain ou même des insultes que maintenant je juge hyper discriminatoires. Et du coup, je me dis, mais en fait, ça me ressemble pas, en fait. Peut-être que ça me ressemblait à une époque où, ouais, j'étais un peu plus, où j'arrivais plus facilement à assumer ce genre de choses, même vis-à-vis des gens. Mais maintenant, non, j'ai pas envie que les gens me voient en train de dire ces choses-là. J'ai envie d'essayer d'avoir une parole agréable.
Qu'est-ce qui t'a fait évoluer, tu penses? C'est peut-être aussi la notoriété qui fait
peut-être,
que ça a changé
peut-être, et le fait de se rendre compte que le terme influenceur, il est pas anodin. Et je m'en rends compte sur les réseaux. C'est aussi pour ça que j'aime bien parler de trucs qui me tiennent à cœur, comme l'écologie, la cause animale, tout ça. Et je me rends compte des répercussions que ça a, parce que les gens viennent me voir et me disent ça m'intéresse ce que tu dis, ou alors des gens qui viennent me voir et qui me disent je suis devenu végétarien grâce à toi.
T'es végétarien depuis un petit bail.
Bientôt 2 ans, ouais. Bientôt 2 ans. Et bref, et je pense que c'est tout ça, ouais, qui me donne envie de maîtriser un peu plus ma parole. Et évidemment, j'ai pas envie de me censurer, parce que les gens après peuvent me dire du coup tu te censures. Non, c'est juste que moi, honnêtement, de moi-même, j'ai moins envie de faire des choses comme
t'as évolué.
Ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est pas de la censure, honnêtement, je le ressens pas comme la censure. Je le disais tout à l'heure qu'il faut être plus vigilant quand on est plus connu, mais je fais quand même vraiment les choses que j'ai envie. Et je pense honnêtement, j'en sais rien, si demain l'envie me reprend, je le ferai sûrement quand même, mais j'ai vraiment pas envie de ça.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir végétarien? J'aime bien. Je suis végétarien moi depuis 5 ans.
Ah super.
Tu vois, et je pense que.
Je pense que c'est évident ce que je vais répondre, mais.
Non, je pense.
Non.
On est en 2019 et c'est toujours pas évident.
Non, écoute. À nouveau, j'aime bien aussi. Alors, je suis vraiment. J'essaie de veiller à chaque fois d'être juste dans l'information, de pas faire chier les gens avec ça, parce que je me rends compte que très souvent les gens en parlent mal, en fait.
J'aimerais avoir ton histoire à toi plutôt.
Ouais, voilà. Du coup, je vais être juste dans l'information. Moi, ça faisait des années que ça me trottait, parce que honnêtement, j'ai toujours été très attaché aux animaux et je pense que comme tout le monde, ça faisait des années que ça me trottait, que que ça me travaillait. Je me souviens même enfant, je me disais que plus tard je serais végétarien. Parce que je commençais à mesurer, je me disais, ah oui, donc en fait, le lapin que je vois sur ces belles photos, c'est celui que je mange, et pareil pour le bœuf, et pareil pour l'agneau. Ah oui, en fait, l'agneau que je mange, là, il a 2 mois. Ok. D'accord, donc c'est un être, on l'a fait grandir 2 mois, et on l'a tué, et on l'a mangé. Ok. Mais non, et c'est parce que aussi dans mon entourage, j'avais mon pote Martin qui à un moment était vegan, qui me parlait, qui me sensibilisait. Et je sais pas, j'ai eu une sorte de déclic de me dire, en fait, c'est le moment. Maintenant, tu es un peu plus indépendant, ou tu peux plus facilement aussi cuisiner, ou les choses s'ouvrent plus facilement à ça aussi, parce que là, on a la chance d'être sur Paris et il y a tellement d'alternatives. C'est vrai que moi, venant du sud, venant de Nîmes, le fief de la corrida et de la viande,
oui.
De la corrida, c'est un peu plus complexe, tu vois. Et ça arrivait une époque où j'étais donc sur Paris, où c'était un peu plus facile de me nourrir autrement. Et non, j'ai eu, ce déclic de me dire, si t'aimes vraiment autant les animaux, autant pas les manger, en fait. Parce que beaucoup de gens pensent les défendre, mais en fait, ils se rendent pas compte que quand on l'a dans l'assiette, on le défend pas, en fait, l'animal. On fait même tout l'inverse. Et à la limite, on peut défendre un animal domestique. On peut dire, je défends les animaux domestiques, mais on défend pas les animaux en les mangeant, en fait. Et en les exploitant et en leur faisant vivre cet enfer et en les tuant, quoi. Et moi, personnellement, ça m'a un peu trop touché. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, en fait, essaie d'être végétarien juste pour la journée. Parce qu'au final, je mangeais vraiment. Moi, c'est le poulet, je suis fou de poulet. Hein. Je le dis même aux gens. C'est pas que j'aime pas la viande, je trouve ça succulent, la viande. Je trouve ça trop bon, mais c'est juste que j'ai pas envie d'en manger, en fait. Par rapport à toutes les conséquences que ça a, et notamment l'autre point qui est l'écologie. Parce que c'est quand même le premier facteur de pollution mondiale. La viande, l'élevage de vaches et même c'est souvent en argument aussi qu'ont les gens, ouais, mais ton soja que tu manges, tout ça, ouais, mais le soja, il sert à nourrir le bétail, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est pas... Non seulement, déjà, par l'élevage des bovins et du bétail, mais aussi par tout ce qui sert à les nourrir, c'est la première cause de pollution au monde. Bref. Mais à nouveau, tu vois, voilà, j'essaie aussi au quotidien de pas être dans le discours punitif. Je déteste quand les gens me disent quoi faire, etc. Donc, j'ai pas envie de le faire aux gens. Et c'est vraiment un truc sur lequel je veille. Et si des gens écoutent et sont un peu sensibles à ça et ont pas envie d'être titillé, c'est vraiment pas mon intention. Moi, j'aime juste informer et vraiment faites ce que vous voulez.
Oui.
Juste voilà, moi, j'essaie d'apporter les infos quand les gens sont curieux et je le fais. Et voilà. Et bref, à la base, c'est parti d'un défi. Je me suis dit, viens, aujourd'hui, je mange pas de viande parce que j'étais fou de poulet, j'en mangeais tous les jours. Pour moi, ça aurait dû être un légume, tu vois. Dieu aurait dû dire, le poulet est un légume, tu vois. Et au final, je me suis dit, bah, viens, ça va durer un jour, essaie de faire une semaine. Allez, viens, essaie de faire le mois. Ah, tiens, c'est ton anniversaire bientôt, bah, tu mangeras la viande au restaurant. Au final, j'avais même pas mangé. Au final, c'est venu comme ça. Et maintenant, je ne peux plus faire machine arrière. C'est impossible. Et même à terme, j'aimerais être vegan, tu vois. C'est pareil, c'est des choses qui viennent petit à petit. Et souvent, je crois que les gens facilement viennent reprocher, tu vois, à quelqu'un qui dit « Ouais, mais tu... Alors certes, t'es végétarien, mais tu continues à faire ça, tu continues à faire ça, t'as un iPhone, t'as machin. » Ouais, mais juste faisons les efforts petit à petit. Personne n'est parfait au quotidien. Essayons tous de faire des trucs personne n'est irréprochable, en fait. Et aussi, je veille souvent à avoir ce discours-là aussi, au-delà de ne pas être punitif, d'avoir ce discours de « Ce n'est pas grave, ne culpabilise pas. »
On fait tous beaucoup de culpabilité. Hein,
mais ouais, c'est ça. Et c'est vraiment le problème. C'est que souvent, justement, quand on est face à... On entend souvent les gens crier « Ouais, les vegans, ils viennent m'apprendre la vie, machin. » Non, enfin, peut-être qu'ils s'expriment mal, ces gens-là. Et peut-être que oui, ils essaient de t'imposer un truc, mais c'est parce que forcément, ça leur tient à cœur. Et toi-même, tu es attaché à des trucs et ça te tient à cœur. Comprends ce qu'ils te disent, mais je comprends que ce qu'ils vont te dire, ouais, va jouer sur ton ego et va jouer
aussi.
Et va te toucher et forcément ça t'as forcément un phénomène de culpabilisation qui se met en place et forcément c'est vraiment pas une bonne manière de dire fais ça, tu te rends pas compte, machin, arrête ça, non, laisse-moi faire ma vie parce qu'en fait bah je vais apprendre les choses moi-même par expérience et moi-même hein il y a 2 ans quand on me disait fais ça je disais ouais mais je fais quand même des efforts, regarde je fais ça machin C'est un sentiment normal et humain, ça.
Oui, oui.
Il faut pas culpabiliser. Moi, j'ai mangé de la viande pendant 20 ans, tu vois. Mmh. C'est ce que je dis à chaque fois. J'ai été éduqué comme ça. C'est dur de changer du jour au lendemain.
Très bonne transition pour je viens de Nîmes.
Oui, exact.
Parce que justement,
je viens de Nîmes.
Je pense que c'est encore plus compliqué.
Ouais.
Quand tu viens de. J'étais avec une pote hier qui me disait qu'elle avait passé des vacances au Pays Basque et que c'est compliqué d'être végétarien.
Ouais, c'est compliqué. Je passe souvent des vacances au Pays Basque.
Oui, c'est sûr, c'est pas évident.
Tu sais que des fois, tu manges tes frites, tu sais qu'elles sont cuites dans l'huile
bah oui.
Avec un peu de graisse de canard ou quoi. Hein, mais bon, écoute, dans ces moments-là, tu te dis, bon, bah, c'est comme ça. Ça m'arrive, hein, ça arrive. Hein.
Je te sens à la fois très fier de Nîmes, d'où tu viens et de ton patrimoine.
Hein, c'est pas tant le patrimoine, parce qu'au final, je n'ai jamais été à fond dans ce patrimoine-là. Puis même, c'est vachement axé autour de la culture taurine et,
oui, ça, c'est sûr.
Et tout ce qui est là-dessus. Et évidemment, maintenant, avec mes positions, je suis un peu réticent face à ça. Mm. Même si, évidemment, à nouveau, je laisse faire leur vie aux gens. Mais honnêtement, je préférerais que la corrida soit abolie, etc. Mm-hmm. etc. Mais bon, c'est comme ça. Mais je suis plus attaché à ma vie, quoi, à la vie que j'ai eue là-bas et à tous mes souvenirs et à tous les souvenirs qui sont marqués autour de ça. Et comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très nostalgique et j'aime beaucoup vivre dans le passé, enfin, en tout cas me rappeler de tout ce qui m'a fait et m'a forgé et tout ce que j'ai, toutes les émotions que j'ai pu avoir, etc. etc. Et donc, forcément, ces choses-là sont rattachées à des lieux et sont rattachées à une ville. Et donc, oui, évidemment, je suis très attaché vis-à-vis de ça, ouais. Et vis-à-vis de tout mon entourage et tous mes souvenirs basés là-bas, plutôt que sur le nom d'une ville et ses murs. Quoi.
Oui, je comprends.
Voilà, ouais.
C'était compliqué pour toi de prendre la décision de venir vivre à Paris, de monter à la capitale
Alors, la décision n'était pas complexe, mais c'est plus tout ce qu'elle concerne qu'il était.
Ouais.
Alors, c'était déjà un peu dur vis-à-vis de... Surtout de ma mère avec qui je vivais, principalement, parce que mes parents ne sont plus ensemble. Ça a été très dur de lui faire comprendre que j'envisageais ce métier-là et qu'évidemment ça allait être une route un peu compliquée, un peu sinueuse et très versatile. Mais elle l'a compris, je crois, facilement. En fait, je crois qu'elle l'a compris en ayant une discussion avec... je crois que c'était... Alors là, je vais rentrer dans des détails inutiles, mais avec une dermato, je ne sais pas quoi, qui avait son fils à Paris et qui, en fait, vivait de sa passion. Et elle est rentrée de ce rendez-vous et elle m'a dit « Je comprends, en fait, que, bah, que tu ne serais pas heureux autrement, en fait. » Et je pense qu'à partir du moment où elle a eu ce déclic-là, de comprendre que même si je galérais, bah, je serais plus heureux à faire ça qu'à faire autre chose, bah, je pense qu'elle s'est dit « Ok, bah, je vais t'aider à vivre de ta passion et à faire au mieux. » Et donc, ce n'était pas tant complexe au niveau de la décision, mais c'était plus complexe dans les faits. Bah, il faut venir à Paris, il faut trouver du travail, il faut trouver des contacts, il faut trouver un logement. Et donc, elle était vraiment là, la complexité. Et au final, je suis très content. Mais je pense honnêtement que par rapport à beaucoup d'autres gens, je n'ai pas beaucoup galéré. Parce que je voyais vraiment ça comme un challenge, mais insurmontable. Et je suis vraiment content. J'ai une chance inouïe, je pense, de voir qu'au final, les choses ont un peu coulé facilement et tout s'est fait assez facilement. Quoi.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment t'as fait alors justement? C'était quoi ta porte d'entrée entre
alors,
guillemets?
Sans rentrer dans les détails.
Oui, je veux pas non plus ta vie privée,
ouais,
mais
ouais.
C'est plutôt.
Non, même pas privé, c'est que.
Si t'as des conseils à donner, quoi, tu vois.
Même pas privé, c'est que moi j'ai eu cette chance-là. Comme je te disais, on avait créé une espèce de petite boîte de prod avec mon pote Sofiane, qui avait déjà un petit pied dans YouTube. Voilà, il avait une petite chaîne YouTube, il avait 40 000 abonnés, voilà, voilà. Ça l'a amené à connaître d'autres youtubeurs. Au final, avec ces autres youtubeurs-là, on avait pour espoir de faire des petits projets. Petit projet qui aurait été nécessaire d'être fait sur Paris, donc qui ont fait que moi je venais squatter justement chez Seb qui m'a hébergé, mais merci encore Seb, tu entends ça, qui m'a hébergé des mois
donc
et des mois.
Seb Lafrite, hein.
Seb Lafrite,
qui est connu.
Alors à l'époque, au début il avait un appart, puis après il a eu un espèce de studio, on était, il devait avoir 40 mètres carrés, on était genre 4 dedans quoi, tu vois, enfin, c'était... et lui seul je dérangeais pas, c'était incroyable, moi je sais que moi-même, tu vois, j'ai du mal même d'avoir une personne chez moi, tu vois, je vis seul. Lui, c'est fou, on vivait, on squattait son propre lit, on était... enfin voilà, et ça le dérangeait pas, Seb, merci pour ça. Et bref, et au final, ces projets-là n'ont jamais vu le jour, mais le fait d'être à Paris, bah écoute, par des soirées, par des machins, par des projets, ça nous a fait amener à connaître d'autres gens, d'autres projets. Moi, je faisais beaucoup d'allers-retours, j'étais pas sur Paris, mais du coup, je continuais, bah voilà, ces délires de vidéos, tu vois, qui au final, bah... m'ont amené à...
Je t'ai vu dans une soirée... T'as fait un vlog dans une soirée au YouTube Space pour...
Ah ouais, c'est il y a longtemps, ça. Oui, oui, je m'amusais à créer Dailymotion.
Dailymotion.
Ouais, je disais, oh, c'est de la petite blague, ça. C'est,
mais
la petite
c'est
blague
pareil, en fait. J'avais un peu la sensation que c'était un peu ta première soirée chez YouTube.
Ouais, c'était un peu ça. Ouais. Je devais être, je pense, à le plus un de Sofiane ou machin. Ouais. Et du coup, bah voilà, tu vas connaître des gens, ils s'intéressent à ce que tu fais. Parallèlement, bah, j'ai fait cette vidéo à démonétisation. Et voilà, c'est des petits projets avec un autre pote aussi... on avait un autre pote, mais au final un peu toute cette bande là on avait pour projet de monter une boîte de communication, ça a commencé à se faire, puis au final ça s'est pas fait, mais du coup ça m'a, tu vois, enfin les choses se sont fait par-ci par-là, ça a été beaucoup de, ça a été un gros serpentin, j'aime bien cette image, mais au final c'est ce que je dis, j'ai l'impression de pas avoir tant galéré parce que une personne m'a amené à en connaître une autre, puis moi-même ça m'a poussé et convaincu de faire certaines choses, et au final les gens l'ont remarqué, et voilà, ça s'est un peu goupillé facilement, et j'estime ne pas avoir galéré vis-à-vis de ma venue sur Paris très longtemps, tu vois, ça a été l'affaire de 2 ou 3 ans. Et je m'attendais à ce que ce soit tellement pire, à galérer pendant 5 ans, 5-10 ans, devoir faire des petits boulots pour pouvoir trouver un loyer, déjà trouver un appart même. Au final, ça s'est fait assez facilement, entre guillemets, même si j'ai galéré. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et si je devais du coup le conseiller, parce qu'évidemment, j'ai l'impression que c'est une expérience qui se base beaucoup sur la chance, même si évidemment, il y a eu beaucoup de travail. Et de...
Oui, je pense que t'as fait.
Ouais, oui, bah, évidemment, hein, tout ne s'acquiert pas par chance, et ce serait bête d'avoir ce discours-là. Juste, moi j'ai toujours ce discours-là, mais qui est à nouveau bête, mais lancez-vous, quoi. N'ayez pas peur, et les échecs sont tellement fructifiants, c'est tellement utile un échec, c'est tellement Il faut tellement pas avoir peur de ça. Et quand tu t'en rends compte, bah, ça t'ouvre tellement des portes. T'as tellement un déclic. Je dis ça, mais même moi, j'ai des jours où je doute de tout et j'abandonne plein de choses. Hein, mais des chansons, des idées de vidéos, juste de contacter quelqu'un parce que t'as peur, tu vois. Mais franchement, il faut tellement l'enlever, cette peur. Et évidemment que ça aide aussi d'avoir les parents derrière. Ça, c'est sûr aussi. Ça aide tellement, ouais.
Qu'est-ce qui te donne envie de donc passer à Incroyable Talent? Et vraiment, pour le coup, tu joues à fond le perso. Alors, t'as un alter ego dont on n'a pas encore parlé.
Exact.
Qui s'appelle Maxou le Zozo.
Maxou le Zozo, qui est venu un peu...
Pourquoi t'as eu besoin de se créer cet alter ego? C'est intéressant.
Ben alors, comment te dire?
C'est décousu comme interview, mais j'aime bien ça. Tu vois, on part dans plein de choses.
C'est bien, et même moi, ça m'aide, tu vois, à comprendre un peu plus pourquoi j'ai fait ça. J'ai toujours eu ce souci-là depuis mon enfance, et je l'ai encore, tu vois, dans mes activités, parce que tu l'as dit toi-même. Un coup, on te voit massacrer une chanson, et un coup, tu vas faire une chanson où tu parles de chagrin d'amour, ou de peur, ou de machin. Et j'ai toujours eu cette chose-là depuis enfant, qui est que je ne contrôle pas ces choses-là, et j'ai l'impression d'avoir cette dualité. Et dans mes relations, très souvent, et encore aujourd'hui, quand je commence à connaître quelqu'un, la personne me dit toujours, j'arrive jamais à savoir si t'es sérieux ou si t'es dans un rôle, je ne sais pas.
Okay.
Et j'ai réalisé que moi-même, c'est une chose que je ne contrôle pas. C'est-à-dire que je crois que il y a des jours où je vais me réveiller plus Maxou le Zozo, ou des jours où je vais me réveiller plus moi-même. Et ça m'a aidé en fait de concrétiser cet alter ego, parce qu'au final c'était une espèce de dualité schizophrénique. Je sais pas, c'est pas pathologique, hein, évidemment.
Oui.
mais ça m'aide en fait de synthétiser, et je pense que c'est plus clair pour les gens d'avoir créé cet alter ego, et ça m'aide moi-même en fait à essayer de dissocier un peu plus que ce que je ne m'explique pas en fait, qui est que j'aime autant être ce mec hyper foufou et autant être que j'aime, et au final je suis autant cette personne introvertie que tu peux croiser dans la rue et qui peut t'apparaître très étrange et très froid, juste parce que je suis des fois j'en sais rien, il y a des jours où tout pour moi est une espèce de décharge émotionnelle et tout matin et voilà, je suis soit hyper à fleur de peau, soit hyper foufou, excentrique.
Comment t'as... C'est assez rare de croiser des mecs qui sont à ce point-là connectés à leurs émotions. Je te dis ça parce que tu sais, on a un podcast chez Mademoiselle qui s'appelle Le Boys Club.
Okay.
On a reçu plein de mecs qui viennent parler de leur masculinité, etc. etc.
Okay.
Et vraiment, il n'y en a pas, sur 50 et quelques, je pense peut-être quelques-uns, mais qui sont à ce point-là connectés. Tu sais d'où ça devient, ce...
Je saurais pas te dire, mais...
Pour moi, c'est un super pouvoir, hein, tu vois, que t'as.
Ah, je sais pas. Moi, je sais que justement, que de la même manière que je fais tout instinctivement, je fais un peu beaucoup de choses par émotion, parce que c'est nouveau que j'arrive un peu à contrôler ça, mais je me suis toujours fait moi-même contrôler par les émotions, et ça a tellement été important dans ma vie, les émotions, ça a tellement été juge de plein de choses, et notamment de mes créations artistiques. C'est-à-dire que moi, si je fais des choses, c'est par thérapie, disons. Si j'écris des chansons, si je m'ouvre aux gens, si tout ça, c'est parce que j'en ai besoin, et que des fois j'ai une telle boule en moi que j'ai envie de sortir, mais je sais pas, j'ai l'impression de ressentir tout le temps et d'être hyper attaché à ça et d'avoir besoin de les matérialiser, je sais pas, il peut m'arriver de... Je me considère hypersensible. Hein,
tu vois un psy ou une psy?
J'en ai vu longtemps, okay. Enfant. Ma mère même pensait que j'avais des troubles autistiques quand j'étais enfant, justement, parce que j'étais très enfermé sur moi-même et... Oh, j'ai l'impression d'un coup qu'on part en psychologie.
Non, mais en fait, t'es pas obligé d'en parler si
ouais,
ça t'intéresse
non,
pas.
Et voilà, très enfermé sur moi-même, et j'évoquais beaucoup de choses. Très petit, je lui parlais de mort alors que j'avais 3 ans. Enfin, j'évoquais... Elle avait l'impression que j'étais très en avance sur plein de points. J'ai appris à lire très vite, etc., etc., et... Du coup, ouais, j'ai vu un psy. Il s'avère que je suis logiquement hypersensible, selon des diagnostics, etc., etc. Et voilà, je pense que du coup, ça m'aide. Mais ça a longtemps été très, très, très dur à vivre, et ça l'est aussi de temps en temps. Tu vois, c'est dur de se faire submerger par une émotion, de pleurer pour rien. Tu vois, un truc dans la rue qui t'atteint, tu pleures. Longtemps, j'ai été un peu, un peu pas renié, mais tu vois, par mes amis, je me suis senti peu souvent différents.
C'est un garçon qui pleure.
C'est ça, ouais, vraiment, vraiment. Mmh. Et au fond, au final, on me disait toujours, mais t'inquiète pas, t'arriveras à en faire une force plus tard. Et au final, je suis content parce que ça commence à être vraiment le cas. Et
c'est cool.
Et j'en suis vraiment content, tu vois, parce que bah, tout ça, j'arrive à les retranscrire. Et au final, j'arrive à en rendre des choses qui parlent à des gens. Et c'est ça aussi mon bonheur. C'est, aussi, mmh. c'est ça aussi pour la raison pour laquelle je fais ça, c'est qu'il y a des gens, du coup, qui se retrouvent dans mon discours et qui ont envie d'avancer, bah j'arrive, peu importe le pourcentage, tu vois, mais j'arrive des fois à leur faire ressentir ces émotions-là, ils arrivent à se reconnaître là-dedans, et ça, c'est mon bonheur, quoi, c'est mon plaisir, et c'est trop bien, et évidemment qu'encore à l'heure actuelle, ça me pèse, cette hypersensibilité, mais le fait d'en avoir fait une force, bah, ça me rend plus fort. C'est bête, hein, mais
non, voilà, on sent que carrément. tes textes de ton EP et de
ouais.
sont très chargés justement de,
ouais,
de
alors,
plein d'émotions.
D'ailleurs, attention, hein, je mets en garde plein de gens parce que plein de gens s'inquiètent sur ma santé mentale. Ah mais waouh, tu parles d'une rupture, ça va ? Non, tout va bien dans ma vie. Il y a beaucoup de fiction aussi. Hein. Je me base sur beaucoup de ressentis, beaucoup de vécu, beaucoup d'expériences, mais aussi beaucoup de fiction. C'est comme un film, c'est comme une série. Moi, je vois vraiment ça comme un voilà, une œuvre artistique, c'est pas moi à 100%. Voilà, il y a des textes qui parlent de choses qui me sont très chères. En général, tout ce que j'évoque, c'est des ressentis. Mais tu vois, là, par exemple, j'ai écrit plein de textes, hein, qui sont jamais sortis, mais j'en écris un, c'est sur un père qui a perdu sa fille. Je ne suis ni papa, et j'ai pas perdu ma fille, tu vois. Enfin,
Comment tu fais alors pour te foutre dans les bottes d'un père qui aurait perdu sa fille?
Je sais pas, c'est juste que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui m'atteignent. Mmh. Et ça peut être plein de sujets, plein de thématiques, et et des fois ça passe un cap où ça m'atteint trop, et je me sens pas bien, tu vois, ça me chamboule vraiment. Mmh. Et c'est pour ça que des fois bah, j'essaie de maîtriser un peu tout ça. Mais...
Et donc t'as besoin de le déverser après de.
Et ouais, je crois que j'en ai besoin, et ou alors c'est parce que voilà, j'ai une instrumentale et ça m'évoque ça. Je sais pas pourquoi. Je vois des couleurs à cet instrumental et je vois une thématique qui s'y prête et je me dis mais tiens, je sais pas pourquoi j'ai envie de parler de ça. Là par exemple cette chanson là qui est jamais sortie, je l'ai écrite à l'époque de l'affaire Maëlys, tu vois. On en entend encore aujourd'hui parler, mais je me suis dit, je me suis mis à la place des parents qui perdent tragiquement leur enfant de manière aussi atroce, tu vois. Et je me suis dit, waouh, bah, essayer de comprendre ce que ça ferait, la douleur que pourrait ressentir un parent qui perd son enfant. C'est pas normal, c'est un des trucs les plus anormaux au monde, tu vois. De voir ton enfant partir avant toi.
Mais ça, c'est sûr.
Et surtout, dans des manières aussi tragiques. Et voilà, naturellement, bah, j'ai écrit cette chanson-là, alors après, peut-être qu'elle n'est pas écrite de la meilleure manière, mais en tout cas, j'ai eu ce processus-là. Et je te parle de ça, mais j'écris des chansons sur plein de choses. Hein. C'est déjà le cas dans mon EP, il y a plusieurs thématiques abordées, et il y en a plein, j'ai plein de chansons, plein, même des textes écrits par-ci par-là qui parlent de trucs qui ne me concernent pas du tout, ou alors très peu, quoi. Ou un peu. Ou pas mal. Ou beaucoup. Ou...
Je vais m'arrêter. Il y a un thème très récurrent dans tes vidéos et dans tes œuvres, c'est tes cheveux.
Oui.
C'est fou. Je sais pas pourquoi, mais t'as un vrai truc avec tes cheveux.
Ouais, ouais, ouais.
Déjà parce que j'ai l'impression que sur ces 6 ans, t'as beaucoup changé de coupe de cheveux. C'est pas forcément un truc que beaucoup de mecs font, je pense. J'ai l'impression.
Ben moi, comme je le dis dans la chanson Cheveux, je n'ai jamais su quelle coupe de cheveux arborer depuis que je suis enfant, et ça a toujours été un sujet de conversation. Avec ma mère, avec ma copine, je suis assez chiant là-dessus. T'es sûr que ça va? T'es sûr? Ah, j'arrive pas à me coiffer, machin. Et non, je trouvais ça. J'ai eu envie d'en parler à cette époque-là, au moment où j'ai fait la chanson Cheveux.
T'as fait plus qu'en parler.
J'ai fait plus qu'en parler. C'est vrai que j'ai arboré plein de coupes.
Parce que petit spoiler. Tu finis par te.
Ah oui, oui. Ah oui, oui. À la fin de la chanson, je me rase. Et j'ai gardé une coupe d'ailleurs. J'étais tout rasé sur le dessus et j'avais les cheveux longs sur les bords.
Ah oui.
J'aimais beaucoup cette coupe, ça a pas trop plu à mon entourage, je l'ai gardé que 2 semaines et je m'étais décoloré aussi, j'étais blond platine, c'était marrant.
Pourquoi c'est important pour toi de jouer avec ton visage, avec ton, parce que ça te fait changer de tête littéralement,
ouais,
hein.
Bah je pense que ça va avec une de mes passions qui est de me déguiser, d'incarner des personnages, quoi. J'adore ça. Je pense que ça y joue, ouais. Bon, après là, malheureusement, la nature me permet de moins m'amuser avec mes cheveux. Bon.
Pourquoi tu dis ça?
Parce que je suis concerné, comme beaucoup de gens, par l'alopécie et la calvitie. Voilà,
ça arrive à des gens très bien, tu sais.
Ouais, mais j'en doute pas, j'en doute pas.
Je t'en parlerai après.
Ah, ouais. Bon, après, je t'avoue que peut-être que la chirurgie m'aidera. Peut-être.
Alors moi, j'ai
commencé à y réfléchir.
J'ai deux trucs à te dire, d'accord, ouais. Deux conseils que j'aurais bien aimé qu'on me donne à ton âge,
ouais.
Et qu'on m'a jamais donné.
Dis-moi.
Le premier truc, c'est que je pense que si tu focalises dessus, c'est encore pire.
Ah non, mais c'est sûr. Et tout à l'heure, de la même manière que je disais que j'étais hypersensible, je suis quelqu'un de très stressé,
voilà.
Aussi dans la vie. Et je sais que c'est une des causes. Mais... Et donc, le fait d'y penser, évidemment, ça va aggraver ce stress et aggraver la
Moi, j'ai perdu mes veuches en 6 mois de temps à 18 ans.
Waouh.
Vraiment, c'est parti très, très
ah,
vite.
Ah ouais, d'accord.
Donc, j'étais à... même pas.
Non, même pas.
Ça allait bien, en fait. Tu vois,
ah ouais, d'accord. C'est une période
juste, j'ai focalisé dessus. Et je me suis dit, ça y est, je suis en train de parler. Mon père est chauve.
Oui, bah pareil, le mien aussi. Ouais.
Voilà.
Ah ouais.
Et donc, tu vois, c'est ce truc bizarre. Et le deuxième truc, effectivement, c'est que j'ai jamais fait ce truc de chirurgie.
Ouais.
Par exemple, je me suis fait opérer des yeux il y a 10 ans, tu
d'accord.
vois, pour corriger ma myopie. Et en fait, je me suis dit, mais je comprends pourquoi t'as jamais fait ça, en fait, tu vois. Bon, après, ça fait partie. C'est
ouais,
ma tronche,
non,
quoi,
mais bien
vois.
Sûr, bien sûr.
Tu feras mais pareil,
je pense
mais.
Que...
Bien sûr. Pour toi, tu vois, c'est acteur, machin. Enfin, tu vois,
non,
pour moi,
mais après, chacun a ses raisons. Hein. C'est comme un tatouage, c'est comme même se faire refaire le nez, écoute, ou refaire autre chose. Hein. Chacun a... Moi, c'est juste que si un jour, ouais, je suis voué à être chauve, je préférerais que ce soit un choix plutôt qu'une fatalité, quoi. Et que moi, ouais, voilà, comme je l'ai évoqué dans la chanson Cheveux, j'adore les cheveux, quoi. J'adore pouvoir tester plein de coupes de cheveux, etc., etc. Après, une personne, toi, ça ne t'a jamais trituré l'esprit, bah...
Non.
Ouais, voilà, chacun... Je pense, hein. Et puis, si ça se trouve, je ne pourrais même pas le faire. Et si ça se trouve, je ne le ferai pas. Tu vois, c'est ce que du coup, je me dis, ah tiens, quelles des alternatives. Ah tiens, je les perds pas mal. Je peux plus forcément faire ce que je veux. Avoir les cheveux longs, ce serait pas très, ce serait plus très beau, tu vois, si je voulais les faire repousser. Donc, allez, pourquoi pas la chirurgie. Et honnêtement, je m'en cacherai jamais. Ce serait pas un tabou, tu vois. Ce serait pas une honte. C'est pour ça.
Comment t'as fait pour te retrouver dans toute la bande de McFly, Carlito, Squeezie, etc. C'est ton réseau, c'est ça?
Alors honnêtement, pour chaque personne, c'est pas la même
histoire,
le même chemin, ouais, c'est pas la même histoire. Concrètement, comme je te disais, c'est beaucoup via Sofiane, hein, qui avait vraiment ce pied-là, qui a connu Seb, premièrement. Mmh. Moi, Seb, je l'ai connu comme ça. Et en fait, pour te retracer très vite fait, quand j'ai commencé à me faire connaître, tout ça, une fois j'ai été invité par Cyprien à un quiz d'internet.
Ah, oui.
Le quiz d'internet,
oui.
J'étais invité avec Seb. Là-bas, j'ai rencontré Squeezie. Et en fait, Squeezie, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu Seb. Et on avait un peu sympathisé. Et on a dit, ah ben bah, venez, demain, on mange ensemble. Et au final, c'est fait comme ça. Puis Squeezie m'a invité sur une vidéo. Ça s'est super bien passé. Il y a eu un feeling. Au final, tu vois, l'amitié s'est créée comme ça.
Vous avez des fanfictions sur vous?
Ouais, des fanfictions. Ouais, ouais, il y a plein
sur
de gens.
Squeezie et toi,
on a des comptes fans de nous deux, des gens qui s'imaginent des choses. C'est marrant. Mais en vrai, ça nous fait rire, nous. Ça, alors des fois c'est flippant parce qu'il y a des détails, tu te dis mince comment ils savent ça, tu vois. Quand ça commence à parler un peu de nos réels cercles privés, on se dit oula, ça devient un peu trop réaliste, c'est un peu bizarre. Mais ouais, c'est marrant, c'est marrant que les gens s'imaginent ça. Écoute, si ça leur fait plaisir, si ça leur nourrit des fantasmes, c'est marrant. Mais ouais, ça s'est fait comme ça. Et concrètement, McFly et Carlito, je sais plus quelle a été notre première interaction, je sais plus, mais ça s'est fait voilà en côtoyant Squeezie tout ça. Carlito, ce qui est marrant, c'est que moi, quand j'avais 12 ans, je les écoutais à la radio.
Ouais. tu leur as dit?
Ouais, je leur ai dit. C'est un peu comme mes tontons, quoi.
Un gros coup de vieux.
Non, ouais, non, ouais, un peu. Et justement, dans une vidéo. Où Seb me passe un coup de fil, on appelle les gens au hasard, à un moment ils remettent l'extrait de quand j'étais passé à la radio qui est un peu honteux, où j'ai la voix toute tremblante et tout. En fait, je les écoutais sur Goom Radio, ils avaient une émission sur le métal.
Mais je les ai rencontrés là-bas à l'époque.
Ah, ouais. Génial.
Il y a longtemps.
Eh ben, moi j'étais auditeur et j'étais fan, quoi. J'étais fan et c'était un honneur, je passe à la radio, j'étais tout tremblant et tout. Et du coup, je trouve ça trop, trop beau comme hasard de la vie et bah, de les côtoyer maintenant au quotidien, que ce soit des gens avec qui je m'en. Enfin, c'est trop bien. C'est trop cool. Si je pouvais dire ça au Max Wado, il serait fou, quoi. C'est génial.
Mm. Ouais, t'as l'air d'être fier de ton parcours, là.
Ouais, totalement, totalement. Et je me souhaite que ça finisse pas et que je continue à être surpris de plein de choses, quoi. C'est ce que je me fixe. Et en même temps, j'ai ce truc humain de jamais être satisfait à 100% de ce que je fais, tu vois. Et je pense que tant mieux. Parce qu'au moins, ça me pousse toujours à vouloir faire autre chose, vouloir faire un peu mieux, explorer d'autres choses. Je pense que si un jour j'étais vraiment satisfait, bah, je serais frustré. Et je me dirais, bon, c'est le moment d'arrêter et de partir élever mes porcs sauvages dans le Pays Basque.
C'est vrai.
C'est un vrai truc.
Non, mais en vrai, j'aime beaucoup le Pays Basque, tu vois. Oui, je sais pas vraiment où j'aimerais habiter concrètement, où c'est que je me vois vieillir et tout, mais je suis très attaché. Je trouve ça fou, tout ce qui est Landes, Pays Basque, l'océan, de toute façon, l'océan, je suis fou d'océan. C'est une thématique d'ailleurs qui revient souvent dans mes chansons, mais c'est un truc trop important pour moi. Il faut que j'aille le voir au moins une fois dans mon année, ça me ressource, c'est magnifique. J'ai l'impression d'avoir l'infini en face de moi. Je sais pas comment dire, comme quand je regarde les étoiles ou. C'est là où tu dis waouh, je suis vraiment rien sur cette terre et dans cet univers, quoi. J'ai vraiment ce sentiment-là, c'est quand je fixe l'océan.
Ouais, je comprends.
Ouais, ouais.
Ça devient d'où le Pays Basque, cet amour pour le Pays Basque?
Je sais pas.
Tu sais pas?
C'est juste l'histoire d'une semaine de vacances quand j'étais petit avec mes parents et je trouvais ça trop beau. Et d'avoir un ami qui vient des Landes, bon, c'est pas vraiment le Pays Basque, mais je parle vraiment de toute cette région sud-ouest. Mmh. Et justement, mon pote Julien Granel, qui est là-bas, et très souvent je passe des vacances chez lui, chez ses parents qui sont adorables, et on va voir les plages, on va voir les forêts de pins, et je sais pas, je trouve ça trop attrayant, les gens sont relax, et peut-être que j'ai ce fameux truc, je crois, de je suis fier d'où je viens, mais en même temps je pense que j'ai pas envie de finir ma vie là où je l'ai commencé, tu vois, et de forcément rester tout le temps au même endroit, et donc vu que je viens du sud-est, peut-être que je suis plus amoureux du sud-ouest, d'une autre manière, tu vois. From the sud-ouest, sud-est ou to the sud-ouest, je sais pas. Je sais pas trop me l'expliquer, mais en tout cas, pour avoir vu plusieurs régions en France et tout, c'est là où je me sens le plus reposé, notamment grâce à l'océan.
Je suis d'accord avec toi.
Ouais, ouais.
Je valide. Donc là, tu pars en. Donc ton EP sort très prochainement. Je pense que l'EP sera sorti quand on.
Concrètement, oui. C'est là, demain, on enregistre, ça sort demain. Ah, minuit, ça sort demain. Donc, oui.
Tu te lances dans une tournée aussi, c'est ça?
Ouais, exact. Une grosse tournée qui commence le 2 novembre. Ouais,
tournée solo.
Une tournée solo. Alors, pas vraiment solo sur le projet, Maxence, mais en fait, ce qui est génial, c'est que tout à l'heure, j'évoquais mon groupe que j'avais au lycée. Mais en fait, je pars avec eux.
Ouais, j'ai vu ça.
C'est génial. Mais à nouveau, tu vois, le bonheur de la vie, c'est que quand on allait voir des concerts dans les salles dans lesquelles on va jouer, et ce groupe-là, on se disait, mais c'est fou, c'est le rêve d'une vie de jouer là. Et là, c'est les salles dans lesquelles on va jouer, c'est exactement là où on allait voir. Et à ces endroits-là où on rêvait, on se disait, mais c'est impossible. Et c'est trop bien.
Et
c'est
tes potes sont encore dispo, je veux dire.
Mes potes sont encore dispo, ouais, carrément.
Vous avez vieilli, quoi, vous avez changé
de vie.
Ouais, ouais.
Ben, en fait, concrètement, Martin, qui m'accompagnait déjà sur la petite tournée, il a toujours été avec moi. Mm. On a toujours fait les projets ensemble. C'est lui qui mixe mes sons, qui les enregistre, etc. Et ça. Oui. Kevin, qui au final est ingé son. Bah, c'est son métier, donc c'est génial, il vient. Kevin, qui pour le coup sera à la console retour, donc il sera en fait quand même sur scène avec nous, même s'il joue pas d'instrument. Et concrètement, il y a Mathias qui est au clavier, qui en fait était guitariste du groupe, qui en fait était parti là pour un an au Japon parce que son frère a une maison d'hôte là-bas à Osaka. D'ailleurs, big up, si des gens vont à Osaka, allez au Backstage Hostel.
Voilà.
C'est une super adresse, vous verrez, Mickaël est très gentil. Et en fait, il est parti là-bas, un peu perdu, il se cherchait, il voulait juste expérimenter ça, partir un an, faire un petit job et continuer à faire de la musique. Il s'avérait qu'il est resté un an et que moi, quelques mois avant, je lui ai dit, est-ce que quand tu reviens, tu veux partir sur cette aventure-là? Il a dit, évidemment. Et du coup, c'est marrant parce qu'on est parti au Japon un peu lui rendre visite, mais aussi le ramener en France. On avait vraiment cette sensation qu'on venait le chercher, quoi. C'était mignon. Et Alex qui est toujours batteur, en fait son métier il est professeur de batterie, donc voilà, tout le monde est dispo, tout le monde est, donc c'est super, ouais carrément. Et on s'est retrouvés là pour la première fois depuis 5 ans dans une salle de répète ensemble. C'était un bonheur, j'en ai frissonné en plus parce que Martin donc a réadapté totalement, il a un peu fait tout ce qui est DA de mes morceaux, donc on a totalement tout réadapté au format band, quoi, au format groupe. Et ça sonne, mais après je serais peut-être pas objectif, mais ça sonne trop bien, ça sonne organique, quoi. C'est vraiment une vraie batterie, c'est une vraie guitare, c'est pas juste un play sur un ordinateur. Et moi je suis vraiment attaché à ça. Quand je vais voir un
côté
concert,
live, c'est ça.
J'ai envie de voir un spectacle, j'ai envie de voir une plus-value. J'ai pas envie de me dire, tiens, si j'écoutais le CD sur un gros système audio, je verrais la même chose, à la différence qu'il y a quelqu'un qui le chante. J'aime ce côté spectacle et c'est vraiment ce que j'ai envie de fournir aussi dans l'incarnation de mes chansons, même y aura un peu d'humour aussi dans la manière de présenter les choses. Et,
j'imagine.
Oui, voilà, parce que comme je te disais, ça me ressemble, ce Max. Comment tu peux faire? Il existe, quoi. Il y aura un peu de stand-up, enfin, tu vois, voilà. Donc, la gros spectacle en préparation, on est en plein dedans, là. Là, je suis revenu à Paris.
Trop bien.
Pour faire quelques interviews, mais je repars dans le sud, très concentré là-dessus, et J'ai très très hâte, très très hâte, parce que c'est un truc qui me passionne, moi. Je pense honnêtement, même que si on venait me poser la question plus studio, plus live, je te répondrais peut-être plutôt live, parce que tu, c'est pas juste du donnant-recevant avec les gens, c'est vraiment un échange, et tu, chaque soir c'est différent, et j'adore sentir cette alchimie, ce mélange d'émotions avec les gens, et je trouve ça trop cool de pouvoir leur parler après. Ouais, j'adore.
Merci beaucoup, Maxence.
Ah bah de rien, oh, c'est fini.
Bah, en fait, ça fait un peu moins d'une heure. Est-ce que tu aurais un conseil ou deux de vie à donner aux gens qui nous écoutent?
Je vais me répéter.
Basé sur ton parcours, faites les choses, c'est ça que tu veux
ouais,
dire?
Ouais, je vais me répéter et être très générique, mais je pense évidemment avoir eu... Le facteur chance, évidemment, il est très important, j'ai l'impression, et je le mettrai jamais de côté, mais je pense honnêtement... avoir été quelqu'un, et je suis toujours quelqu'un de très peu confiant et vraiment peur d'avancer, une peur de tout, et jusqu'au jour où je sais pas, j'ai juste des clics là, et je pense que s'il arrive pas encore pour les gens, je pense qu'il viendra. Ne lâchez jamais, battez-vous, la vie est belle, et voyez, je pense qu'il faut toujours voir le positif dans tout, en fait. Je parlais des échecs tout à l'heure, mais plutôt de dire ah tiens, je suis pas très bon là-dessus. Bah plutôt dites-vous, tiens, je vais m'améliorer, quoi. Vraiment, c'est normal que mes premières chansons, moi, mes premières vidéos, je les ai trouvées nulles, je les trouve nulles, et peut-être que dans 5 ans, je dirai ah tiens, cet EP, il était pas fou, même si au final si, il est fou. Mais tu vois, c'est ce que je dis. Je suis jamais à 100% satisfait. Peut-être que moi, personnellement, je me dirai ah tiens, je peux mieux faire, en fait, et j'ai fait mieux ensuite.
Mais
je serais quand même super fier, tu vois. Mais justement, garder cette fierté d'avoir fait et de faire, parce que quoi que vous fassiez, ça plaira même forcément à des gens, et les échecs sont normaux, et lâchez rien, quoi. Juste lâchez rien, et n'ayez pas peur, on n'a qu'une vie, quoi. YOLO. Non, mais c'est vrai, c'est tellement vrai, c'est con, mais c'est vrai, quoi.
T'as cette sensation, toi, que à la fin, on meurt?
Bah ouais.
Non, mais clairement. Tu disais quand t'étais petit,
Mais clairement, à la fin, on meurt.
Et c'est ça qui te fait avancer.
C'est ça qui me fait avancer. Et encore plus, c'est de me rendre compte que je risque de mourir, pas par ma propre volonté, en plus, avec malheureusement le constat qu'on a sur notre planète. Et donc, juste battez-vous, croyez en vous et croyez en vos convictions, et oubliez tout ce qui est regard, oubliez ce que la société crée. Oubliez ça, quoi. Acceptez-vous, et si vous êtes comme ça, assumez-le, et ne laissez pas les autres juger de ce que vous êtes et de qui vous êtes, quoi. Tant que vous faites pas de mal aux autres, c'est parfait. Et veillez à ne pas faire de mal à votre entourage proche, comme
c'est toujours bien.
Plus large. Voilà. C'est bateau, hein, évidemment. Non, mais je pense que ça fait toujours du bien de le rappeler. Et moi-même, quand je l'entendais, je me disais oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et puis, si t'arrives pas à le faire maintenant, t'y arriveras plus tard, quoi. Voilà.
Si vous voulez suivre Maxence sur les réseaux sociaux, on va vous mettre tous les liens. Si vous voulez suivre où ta tournée, les dates de ta tournée,
ouais,
etc.,
ouais.
On mettra les liens.
C'est principalement du Instagram. Hein. Voilà, je le dis. Twitter, c'est vraiment actualité.
T'as deux comptes aussi. T'as deux
comptes. Ouais, j'ai deux comptes Insta. J'ai Maxence Lapérouse, qui est un peu plus officiel, ou j'essaie d'être propre, disons, dans mes posts.
Tu mets des
belles
photos.
Ouais, j'aime bien. Ouais, oui, bon.
Ouais, enfin, bah oui, t'es beau gosse. Hein,
photos, c'est gentil. Non, je mets à la fois des photos qui me concernent, des actualités, mais aussi j'aime bien la photographie en elle-même, donc je mets des belles photos. Et le compte Max Souzo, pour le coup, qui est plus du lifestyle et des conneries du jour le jour, quoi. Voilà.
Un grand merci, Maxence. C'était
merci
trop bien.
Merci à toi.
Merci de t'être livré, c'était cool.
Bah, de rien. C'était dur, mais enfin.
Dur?
C'est dur pour moi de base, mais là, ça s'est fait naturellement.
Ah, ça me fait plaisir.
Quand on a évoqué un peu tout ce qui est sensibilité, j'ai même eu des petits. Je me suis senti un peu justement à fleur de peau. J'ai eu des petits tremblements dans la voix, mais au final, ça s'est fait facilement, et je regrette pas de l'avoir fait.
C'est cool.
Cool.
Merci beaucoup.
Bah, merci. Ciao. À toi.
Merci vraiment.
Ouais, je déconne, c'était de la merde. Ah merde, ça enregistre encore, putain.
Je vais le mettre, hein.
Je plaisante, évidemment.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.